France Inter.
Et voici le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Séquestré pendant 5 ans dans un garage près de Saint-Nazaire, une femme a réussi à échapper à ses geôliers. Les gendarmes confirment aujourd'hui sa captivité. Le récit dans un instant. À suivre encore, la situation de l'éducation nationale est extrêmement inquiétante. La formule choc du nouveau ministre Édouard Geoffrey ce matin sur Inter. Nous verrons s'il dramatise. La réouverture du musée du Louvre ce matin, nous y serons. Et les explications du propriétaire du Monde Charge qui a servi au cambriolage. Nous avons pu le joindre en exclusivité. Le casse du Louvre, ce sera aussi à 13h50. Le C'est la France d'Éric Fotorino. Nous parlerons également des moustiques en Islande, désormais symbole du changement climatique. Et puis de la bataille des moteurs de recherche. Bonjour Xavier Demani.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Et l'intelligence artificielle qui rentre dans la danse.
Oui, OpenAI défie Google et lance Atlas, son propre navigateur dopé à l'IA ChatGPT.
A tout de suite pour vos précisions. À partir de 13h30, un grand roman de montagne au milieu de l'été, Un invincible hiver, signé Virginie Troussier. Il vient d'être republié en poche. Elle est notre invitée. C'est le récit de la tragédie du Fresnay 1961 qui emporta 4 alpinistes et marqua les esprits. 01 45 24 7000 pour vos questions. Juste avant 14h, c'est une chanson, notre semaine spéciale Barbara, avec Barbara Pravi.
Moi, ce que j'aimerais, c'est écrire une histoire comme ça, avec cette précision-là, comme un film. On n'a même pas besoin d'avoir les images. Pour moi, Nantes, elle réunit le cinéma et la musique, c'est incroyable.
Ce sera avec Frédéric Pommier dans une vingtaine de minutes en ce mercredi. Les conseils cinéma d'Alexis Demeyer. Et puis dans une demi-heure, les prévisions météo de Sébastien Léas. On s'attardera notamment sur la tempête Benjamin qui va frapper les côtes françaises dans quelques heures. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
L'histoire est tellement incroyable que les gendarmes de Loire-Atlantique ont d'abord cru à une fable. Une femme de 45 ans leur a expliqué avoir été séquestrée pendant 5 ans dans un garage par un couple. Cela se passe au nord de Guérande. Cette femme est parvenue à s'échapper et une semaine plus tard, l'enquête confirme son terrible récit. Sur place, Hélène Roussel.
Kerudal, c'est le nom du hameau, une poignée de maisons dans la campagne entre marais et océan. Une tragédie à volets fermés qui aura donc duré 5 ans. L'histoire de cette femme retenue dans sa maison par sa propre colocataire, une aide-soignante de l'hôpital de Guérande, 60 ans, qui un jour ramène un homme vivre à la maison, 82 ans, son ami, son beau-père, les témoignages divergent. Le couple est soupçonné d'avoir vidé les comptes en banque de sa victime, maintenu dans des conditions sordides, dans le garage, lavé à l'eau de Javel, du liquide vaisselle dans sa nourriture, drogué aux médicaments, nous indique un enquêteur. Le 14 octobre, mardi dernier, après le dîner, le couple accepte qu'elle aille prendre l'air. Elle tape alors à toutes les portes des voisins. Une va s'ouvrir, l'alerte est donnée. Très amaigrie, la quadragénaire aurait perdu près de 50 kilos. Elle est hospitalisée, c'est une histoire à peine croyable. Le facteur qui connaissait le couple n'en revient toujours pas. Et puis cette voisine, toute proche de la maison, qui était collègue depuis 2 ans à l'hôpital de Guérande avec la sexagénaire, nous parle d'une femme adorable, d'un papy gentil. Nous sommes allés, raconte-t-elle, plusieurs fois dans cette maison avec nos enfants. Nous n'avons rien vu, rien entendu. L'existence même de la quadragénaire n'était pas connue dans le hameau.
Explication sur place signée Hélène Roussel, ici Loire-Océan. À Nice, la fusillade avait fait 2 morts début octobre, quartier des Moulins. Un père de famille et un jeune de 20 ans, victime collatérale d'un règlement de compte sur fond de trafic de drogue. Bonjour Emmanuel Leclerc.
Bonjour.
Eh bien, la police pense avoir mis la main sur le tireur.
Alors, ce sont 3 jeunes hommes âgés de 18 à 23 ans et originaires du Gard qui ont été interpellés en début de semaine. Selon le procureur de Marseille, Nicolas Bessonne, 2 d'entre eux mis en examen pour assassinat en bande organisée et ils sont soupçonnés d'avoir fait partie du commando qui avait ouvert le feu à l'aveugle le 3 octobre dernier dans le quartier des Moulins à Nice. Et selon nos informations, effectivement, l'un des deux est même considéré comme le tireur présumé. Il était connu des services de police avec un mandat d'arrêt. La brigade de recherche et d'intervention de Marseille, la BRI, était même même sur sa trace pour une autre histoire, un suspect avec des antécédents judiciaires, donc, comme on dit, mais pas non plus un gros profil de tueur à gages. Il n'est même pas originaire des quartiers les plus sensibles de Nîmes, par exemple, selon une source proche de cette affaire. Une autre source appelle à une certaine prudence. Tout le commando n'a pas été serré, il y a d'autres recherches en cours, sachant que deux interpellations avaient déjà eu lieu il y a 10 jours par la police judiciaire niçoise, à Carpentras notamment, un homme et une femme proches de l'un des membres présumés du commando avec des profils de logisticiens. L'arme du crime, de type Kalachnikov, elle, n'a pas été retrouvée en perquisition, selon nos informations.
Emmanuelle Leclerc, comment va-t-elle se défendre ? La présidente directrice du musée du Louvre, Laurence Descartes, s'explique cet après-midi devant les sénateurs. Elle va répondre sur la sécurité du musée, 3 jours après le casse de la galerie d'Apollon et le vol de 8 bijoux par 4 malfaiteurs toujours recherchés. On parlera de Laurence Descartes, de son parcours dans un instant. Nous serons également au Louvre. Le musée a pu rouvrir ce matin. Mais d'abord, nos informations sur le cambriolage avec vous, Mathieu Bonnour. Bonjour Mathieu.
Bonjour Jérôme.
Vous avez pu échanger il y a quelques minutes avec le patron de l'entreprise, propriétaire du monte-charge, ce monte-charge qui a servi dimanche matin au cambriolage. Que vous a-t-il dit ?
Exactement, il faut remonter un petit peu en arrière. La réservation se fait par téléphone. Le 9 octobre dernier, quelqu'un appelle cette société pour demander un monte-meuble afin d'aider lors d'un déménagement. Et cette personne choisit bien précisément la ville de Louvre, dans le Val-d'Oise. La personne au bout du fil laisse un nom qui se révélera plus tard être un faux. Le lendemain, un technicien est donc envoyé sur place avec l'engin. Une procédure classique puisqu'il faut une personne habilitée pour manipuler ce type de véhicule sur la voie publique. Au lieu de rendez-vous, le parking d'une résidence un peu isolée est vide. Il n'y a personne. Deux hommes assez grands, costauds, débarquent avec un scooter. Ils portent une cagoule sous leur casque, puis ils menacent ce salarié. Pas avec des armes, seulement des menaces verbales. Puis ils repartent, alors avec le monte-meuble et le scooter, sans laisser le chèque qui était censé régler la note, et disparaissent dans la nature. Le salarié, lui, est encore sous le choc. Dans la foulée, le patron de l'entreprise porte plainte, puis plus de nouvelles. Et enfin, dimanche dernier, il voit les images du braquage du Louvre sur toutes les télévisions du monde entier. Au pied, le patron repère alors tout de suite son monte-meuble avec de fausses plaques d'immatriculation et plus une trace du nom de l'entreprise. Il a encore du mal à y croire. Depuis, tous les jours, il reçoit des appels des enquêteurs, notamment de la brigade de répression du banditisme.
Information et récit signé Mathieu Bonnour pour Inter. Ce qui nous amène à la réouverture des portes du musée. Ce matin, on y a cru lundi matin, mais finalement, le musée était resté fermé. Mardi, jour de fermeture hebdomadaire, ça nous amène à mercredi. Bonjour Victor Vasseur.
Bonjour.
Vous êtes entretenu avec les visiteurs. Comment s'est passée cette réouverture ce matin ?
Une première image ici, Jérôme, devant le Louvre, ces longues files d'attente qui serpentent sur le parvis autour de la pyramide.
Il y a beaucoup de monde, oui. On n'a jamais vu autant de fréquentation au niveau de la porte Richelieu. Et toutes les personnes qui n'ont pas pu venir au Louvre lundi, dimanche et lundi, forcément, viennent maintenant.
Pas de quoi décourager Carla, venue des États-Unis avec son mari pour sa lune de miel.
Well, we're so happy. We have the opportunity.
On est si contents d'être ici. On avait peur que ce soit fermé, mais on est ravis. C'est terrible ce qui s'est passé. C'est choquant, c'est allé si vite. Mais on vient de loin pour voir le Louvre. Raconte Carla, grand sourire et soulagée. Une seconde image, à l'intérieur du Louvre, au premier étage, cette grande porte métallique dorée et noire, fermée, bardée d'un paravent, avec deux agents de sécurité devant. C'est l'entrée de la galerie Apollon, là où les bijoux volés étaient exposés. On voit ces écriteaux. Pas de photos ici, s'il vous plaît, continuez à avancer. Léo et Élise se sont arrêtés quelques instants.
Si on avait pu, on y serait allé, par curiosité, mais ben là, non.
Oui, au moins, on a pu voir quand même.
On a eu la chance. On avait vraiment peur que ce soit pas ouvert, hein, avec que ça ait rouvert ce matin. On a eu la chance.
On a eu la chance. Vu les photos qu'on voyait sur Internet, oui, c'est vrai que ça avait l'air magnifique. Ouais. Au moins, on a pu voir le reste du Louvre.
Mais de nombreux visiteurs passent devant cette porte fermée sans s'arrêter ni détourner le regard et poursuivent leur chemin comme si de rien n'était.
Victor Vasseur avec les moyens techniques de Romain Luquins en direct du Louvre. Ce matin, nous vous avons révélé sur Inter que le système Ramsès, censé alerter la police lors d'une intrusion dans le musée, n'avait pas fonctionné dimanche lorsque les deux cambrioleurs ont franchi la fenêtre. Bonjour Julien Baldacchino.
Bonjour.
Ce point sera l'un de ceux sur lesquels sera interrogée la présidente du Louvre cet après-midi au Sénat. C'est Laurence Descartes. Elle a été nommée en 2021 à la tête du musée le plus visité du monde.
Avec déjà à ce moment-là un CV bien rempli, conservatrice de métier, elle était présidente du musée d'Orsay depuis 2017. Cette spécialiste de l'art du 19e siècle est la première femme à avoir été nommée à la présidence du Louvre. Dès son arrivée, elle se concentre sur la question de l'engorgement du musée. Elle met en place des opérations de diversification des publics, comme elle l'avait fait à Orsay. et de mécénat, avec par exemple un dîner de donateurs inspiré de celui du Met aux États-Unis. C'est elle aussi qui tire la sonnette d'alarme en début d'année sur le mauvais état d'un certain nombre de dispositifs de sécurité et de conservation. Alerte qui a conduit à l'annonce d'un plan de rénovation du musée. Cet après-midi, son audition devrait donc se porter sur la question de la sécurité, mais en interne, elle doit aussi affronter des critiques sur son management. Elle est notamment confrontée à un manque de gardiens de salle qui ne permet pas toujours d'ouvrir l'intégralité du musée. Hier, Le Figaro assurait que Laurence Descartes avait présenté sa démission. Pour l'instant, cette information n'a pas été confirmée et selon nos informations, la tutelle semble vouloir la confirmer dans ses fonctions.
Et ce matin, en Conseil des ministres, Emmanuel Macron a demandé une accélération des mesures de sécurisation du musée. Merci Julien Baldacchino. C'était sa première interview en tant que ministre de l'Éducation nationale. Elle n'est pas passée inaperçue. Édouard Geffray était ce matin sur France Inter. C'est un homme qui connaît bien l'école pour avoir été l'un des plus proches collaborateurs de Jean-Michel Blanquer et de Gabriel Attal, ministre avant lui, et interrogé sur la situation à l'école, à l'antenne, par une auditrice. Voilà quelle a été sa réponse.
Si on parle de l'état de l'école en général, évidemment que la situation est extrêmement inquiétante. Elle est extrêmement inquiétante en termes de niveau. Elle est inquiétante en termes d'inégalité sociale et scolaire, enfin, plus ou moins d'inégalité scolaire adossée aux inégalités sociales. Elle est aussi extrêmement préoccupante en termes de santé physique et psychique des élèves. Et moi, il se trouve que c'est pour ça que ce sont mes trois priorités en réalité.
La situation de l'école est évidemment extrêmement inquiétante. C'est du jamais entendu dans la bouche d'un ministre de l'Éducation nationale. Bonjour Alexis Morel.
Bonjour Jérôme.
Il y a là la volonté de parler clair.
Alors, c'est ce qu'on dit ce midi dans l'entourage du ministre, entourage qui vante un message de lucidité venant de quelqu'un qui connaît parfaitement la maison, puisqu'il a été depuis 2017 DRH de l'Éducation nationale et directeur général de l'enseignement scolaire. Il ne faut pas cacher ce qui ne va pas à l'école, dit-on encore au ministère.
Si on regarde là le fond, la situation vraiment de l'école, est-ce que le tableau est si noir ? Alors,
si l'on reprend les priorités citées par le ministre, niveau, inégalité, santé des élèves, sur le niveau d'abord, oui, les études sont sévères. En mai dernier, la Cour des comptes a même parlé d'échec de l'école primaire. Quant aux enquêtes de l'OCDE, elles se suivent et se ressemblent. Les élèves de CM1 ont queue de peloton européen en maths, en dessous de la moyenne en lecture. Et puis, ce qui distingue en effet notre système scolaire, c'est son incapacité à résorber les inégalités. La France est l'un des pays occidentaux où l'origine socio-économique pèse le plus sur les résultats. Enfin, depuis la crise Covid, santé mentale très préoccupante. Un collégien ou lycéen sur cinq présente un risque important de dépression. Un quart d'entre eux déclare des pensées suicidaires.
Ces propos du ministre de l'Éducation nationale suscitent des réactions ?
Oui, réactions, disons, désabusées de la secrétaire générale du SNES, premier syndicat du secondaire, Sophie Vénétité.
Bah, là, c'est quand même un ministre qui finit par avoir un éclair de lucidité alors qu'il est quand même très largement responsable de la situation désastreuse de l'éducation nationale, puisque si l'école va si mal aujourd'hui, c'est parce qu'elle a subi des politiques qui ont été faites, qui ont été imposées, qui ont été défaites. Et Édouard Geffray est plutôt bien placé pour le savoir, puisqu'il a par exemple fait et défait la réforme du lycée, le choc des savoirs. Bon, il y a une forme de lucidité bienvenue, mais ça ne sera pas suffisant.
Et cette figure syndicale d'ajouter que la lucidité d'Édouard Geffray s'arrête quand il parle budget, avec la suppression envisagée l'an prochain de 4000 postes.
Décryptage signé Alexis Morel. Édouard Geffray qui était autour de la table du Conseil des ministres ce matin pour les retrouvailles entre le président de la République et son premier ministre, Sébastien Lecornu, qui l'a contredit hier à l'Assemblée nationale sur la question des retraites. Bonjour Julien Nenni.
Bonjour Jérôme.
Vous avez suivi le compte-rendu de ce conseil à l'Élysée. Un président recadré par son Premier ministre, ça n'est pas tous les jours.
Oui, dans un passé pas si lointain, on aurait appelé ça un couac et un vrai. Hier, Emmanuel Macron évoquait depuis la Slovénie un simple décalage de la réforme des retraites, pas tout à fait la même chose que la suspension promise par Sébastien Lecornu, obligé de réitérer son engagement une heure plus tard à l'Assemblée. Un détail sémantique qui a toute son importance sur un sujet aussi sensible politiquement que les retraites. Entre-temps, les socialistes, mais aussi les députés macronistes ont eu largement le temps de s'agacer de ce parasitage présidentiel, mais cette friture sur la lignette, évidemment impossible à assumer publiquement, exercice d'équilibriste tout à l'heure de la porte-parole du gouvernement Maud Bréjon après le Conseil des ministres.
C'est vous qui voulez en faire un couac, et j'entends bien l'énergie que certains veulent mettre à leur faire dire deux choses différentes, et notamment chez une partie de nos opposants politiques. Mais je le redis, les engagements pris seront des engagements tenus, et j'en veux pour preuve qu'une lettre rectificative sera prise demain lors d'un nouveau Conseil des ministres pour inscrire dans le projet de loi initial cet engagement.
traduction, ça sera donc bien la suspension de la réforme qui sera mise sur la table par le gouvernement demain. Fin de l'histoire, pas tout à fait, ce couac, puisque c'en est bien un, dit beaucoup de la mauvaise passe traversée par Emmanuel Macron. Oui, c'est douloureux pour lui d'accepter la suspension de sa réforme, concède l'entourage du président, qui assure pourtant que ses relations avec son 7e Premier ministre sont, je cite, « fluides ».
Alors on le voit, la situation politique reste très instable et rien ne dit que le budget sera voté d'ici la fin de l'année. Mais cela n'a pas l'air de préoccuper les investisseurs. Hier à la Bourse de Paris, le CAC 40, qui reflète la valeur des actions de 40 grandes sociétés françaises, cet indice a atteint un sommet historique. La Bourse voit la crise du bon côté, Agnès Soubiran.
Oui, c'est l'éternelle métaphore du verre à moitié plein ou à moitié vide. Parmi les éléments susceptibles d'inquiéter les marchés, la dette abyssale de la France, la dégradation de la note française par les agences de notation américaines, Fitch et Standard & Poor's, alors que Moody's doit se prononcer vendredi soir. Paris emprunte aussi plus cher que les pays autrefois surnommés pays du Club Med, l'Espagne, l'Italie, la Grèce et le Portugal. Mais visiblement, les investisseurs ont choisi de voir les facteurs positifs, la crise politique s'apaise avec le maintien du gouvernement Le Cornu 2, les débats sur le projet de budget ont commencé et surtout les grands groupes emblématiques français, les groupes de luxe et de défense, ont repris des couleurs. LVMH, Kering, Hermès, Airbus, Safran affichent des résultats encourageants. Mais la situation reste fragile, à la merci de nouvelles annonces de taxes douanières, d'une dégradation de la situation géopolitique ou d'une censure à l'Assemblée, risque toujours d'actualité.
Agnès Soubiran, le feu vert pour l'ancien Premier ministre Jean Castex, jusqu'ici à la tête de la RATP. Il va devenir le PDG de la SNCF. Le président de la République l'avait proposé. Le Parlement a donné son accord ce matin.
France Inter, le 13-14. Jérôme Cadet.
En Syrie, 10 mois après avoir renversé le dictateur Bachar al-Assad, l'ex-djihadiste Ahmad al-Sharr, désormais président, cherche toujours à consolider son pouvoir, avec comme enjeu principal pour lui, faire rentrer dans le rang les djihadistes qui lui ont permis de prendre Damas et qui depuis sont devenus gênants. Bonjour Marie-Pierre Véraud.
Bonjour à vous.
Vous êtes notre correspondante en Turquie, vous suivez l'actualité syrienne. Marie-Pierre, ce tour de vis semble concerner désormais un djihadiste français, Oumar Diaby, alias Omar Homsen, et ses quelques dizaines d'hommes.
Oui, son camp est adossé à la frontière turque dans le nord-ouest de la Syrie et assiégé depuis hier soir. L'armée syrienne y a dépêché des renforts et l'on fait état d'explosions et de tirs à l'arme lourde. Omar Homsen, c'est un ancien délinquant devenu prêcheur. Il fait partie des milliers de djihadistes étrangers qui ont convergé vers la Syrie lors de la guerre civile. Son groupe a participé à la guerre contre Bachar al-Assad, mais les temps ont changé. En effet, Ahmed al-Sharr entend faire revenir son pays dans le concert des nations. Depuis sa prise de pouvoir il y a près d'un an, il a entrepris de mettre ses factions djihadistes au pas en les intégrant au sein des forces syriennes. Alors, certaines lui ont fait allégeance, mais d'autres, comme ce groupe de Français, font de la résistance, déçus par la tournure que prend le nouveau régime, pas assez islamiste à leur goût. Alors, si le prétexte à cet assaut est l'enlèvement d'une fillette, cette opération, elle entre bien dans le cadre de l'élimination des groupes de combattants étrangers sous la pression de la communauté internationale. Outre les Français, les forces syriennes s'apprêteraient également à lancer l'assaut contre des factions venues du Caucase.
Marie-Pierre Véraud, en direct d'Istanbul. Ce sont deux pays sous influence russe et dans lesquels le travail des journalistes est périlleux. Voilà pourquoi deux journalistes emprisonnés, l'un en Biélorussie, l'autre en Géorgie, ont été récompensés ce matin du prix Sakharov pour la liberté de penser, un prix remis par le Parlement européen. Leurs noms, ils valent d'être cités, et pardon pour la prononciation, Mzia Amaglobeli et Andrei Pogzobut. Il se trouve que ce matin, une délégation de journalistes de Biélorussie visitait France Inter au moment où ce prix a été annoncé. Voilà comment Irina Novik, journaliste biélorusse, réagit à la récompense pour son collègue Pogzobut.
C'est vraiment super pour nous. D'abord, parce qu'on est proche, on est de la même ville. Ensuite, c'est une bonne nouvelle pour les journalistes, parce qu'il a une telle force mentale.
C'est
de l'héroïsme, en fait. Et beaucoup d'entre nous connaissons la même position.
У нас в журналистской среде уже есть шутка, что не сидел ни журналист, не сидел ни белорус.
Nous avons cette blague qui est de dire que si tu n'as pas été en prison en Biélorussie, tu n'es pas journaliste. Et Андрей a déjà passé tellement de temps en prison. Il aurait eu la possibilité de sortir déjà s'il avait fait une demande de grâce au président ou s'il avait dit qu'il allait changer de comportement, par exemple. Mais il tient. Et pour nous, c'est un exemple qui nous montre que nous aussi nous devons tenir et que notre travail ne reste pas invisible aux yeux du monde entier.
Irina Novik, traduite par Virginie Pironon. Jusqu'ici, les informations en France sur les PFAS, ces polluants éternels qui polluent l'air, le sol et l'eau, ces infos remontaient de manière parcellaire. Pas de vue d'ensemble. Voilà l'intérêt du rapport de 700 pages qu'a dévoilé ce matin l'ANSES avec des données, mais aussi des recommandations. Bonjour Rémi Brancato.
Bonjour.
Et parmi lesquelles, contrôler davantage de PFAS.
Oui, pour les aliments, par exemple, 4 PFAS seulement sont recherchés. Dans les viandes, les poissons, les œufs uniquement, il faut contrôler plus d'aliments et 5 fois plus de PFAS, dit l'agence. Pour l'air, aucune surveillance actuellement, il faut la mettre en place et l'ANSES vise notamment le TFA. Un métabolite, un dérivé de pesticides omniprésent. L'ONG Génération Future, dont fait partie Johan Coulmont, dénonce depuis longtemps sa toxicité.
Dans les recommandations de l'ANSES apparaît le fait de systématiquement aussi rechercher le TFA. C'est l'un des métabolites qu'on quantifie le plus et qu'on détecte le plus dans l'eau et l'alimentation. La recommandation de l'ANSES montre bien que nous avions raison. Il est crucial de la rechercher partout.
Dans l'eau potable, 20 substances doivent être mesurées au 1er janvier prochain. L'ANSES préconise d'en viser 5 de plus.
Il y a en ce moment dans notre pays une vingtaine de communes dans lesquelles l'eau est coupée en raison de la contamination au PFAS. Si je suis ce rapport, Rémi, ça veut dire qu'il va y en avoir d'autres dans les prochaines semaines ?
Oui, sans doute, car avant même ces préconisations, c'est une directive européenne qui s'appliquera au 1er janvier pour surveiller les réseaux d'eau. Résultat, les collectivités qui gèrent ces réseaux s'inquiètent, comme l'explique Régis Ten de la FNCCR, la Fédération des collectivités gérantes de réseaux.
Pour certaines collectivités qui sont déjà confrontées à des PFAS, les surcoûts peuvent être extrêmement élevés. Sur les surcoûts, c'est des ordres de grandeur qui peuvent conduire à au moins doubler le prix de l'eau, sachant qu'on n'a pas encore d'études pour les toutes petites collectivités.
Les collectivités qui demandent donc un financement par l'État et le renforcement du principe de pollueur-payeur.
Merci Rémi Brancato. Le moustique vit désormais en Islande. Jusqu'ici, certains de ces insectes pouvaient arriver sur l'île du nord de l'océan Atlantique en avion, mais ensuite ils ne survivaient pas. Eh bien, désormais, ils y parviennent. Un entomologiste en a repéré 3 et il les a identifiés. Écoutez l'analyse de Jérémy Bouillet. Il est entomologiste au CIRAD en poste à La Réunion.
C'est pas des moustiques dangereux, mais en fait, ça les inquiète globalement parce qu'ils n'avaient jamais eu une moustique avant et que ça montre que l'élévation progressive des températures avec le changement climatique permet à ces moustiques de s'installer. Et du coup, ils ont peur que d'autres espèces qui sont en train d'envahir l'Europe progressivement, hein, comme le moustique pire, Aedes albopictus en France. Vous avez vu qu'en France, il y a eu plus de 484 chikungunya cette année. C'est parce que albopictus est en train de tout envahir. Et on a une autre espèce, Aedes aegypti, qui menace aussi. Ils se sont installés à Chypre depuis 3 ans maintenant. Et ils sont résistants à tous les insecticides. Donc c'est un peu pour ça qu'ils sont inquiets, parce que comme ils ont détecté des moustiques, ils ont peur que les espèces de vecteurs invasifs arrivent aussi. Le fait qu'il n'y ait aucun moustique avant, c'est parce que la moyenne des températures était trop basse pour qu'ils puissent faire un cycle de vie complet. Donc maintenant, s'il y a une espèce qui est capable de le faire, ils se disent qu'il y a d'autres espèces qui peuvent le faire aussi.
L'entomologiste Jérémy Bouillet au téléphone de Sophie Becherel. Et maintenant, les moteurs de recherche. Voilà le dernier territoire que veut coloniser l'intelligence artificielle. C'est la démarche d'OpenAI, l'entreprise derrière l'intelligence artificielle ChatGPT, qui a annoncé hier le lancement de son propre navigateur avec évidemment de l'IA générative. Xavier Demagny, on vous retrouve. L'objectif, c'est de détrôner Google. On va voir ça dans un instant. D'abord, rappelez-nous un navigateur web, de quoi on parle ?
Du socle d'Internet, hein, tout simplement, depuis les années 90. C'est ce qui permet d'accéder à toutes les pages qu'on consulte. On connaît Safari, Edge, Internet Explorer avant, mais aussi Firefox et donc Chrome de Google qui domine le marché.
Et donc celui d'OpenAI, à quoi est-ce qu'il ressemble ?
Au premier regard, je vous ai pris mon ordinateur pour vous montrer.
Ouais, vous l'avez ouvert juste à côté de moi.
Exactement, ça ne ressemble à rien d'autre qu'un navigateur. Vous avez une barre de recherche.
Voilà, là, j'ai l'impression que c'est Google.
Voilà,
c'est
Google Chrome. Vous avez des onglets, des favoris, mais tout est construit autour de ChatGPT qu'on garde toujours disponible, vous voyez, sur le côté, à côté d'une recherche classique, par exemple. Là, j'ai posé une question sur la réouverture du Louvre. Je peux demander à l'IA d'analyser les résultats pour m'indiquer les plus actualisés, les plus fiables. Autre fonctionnalité, Atlas peut naviguer à votre place, réaliser des tâches pour vous, réserver un restaurant, des vacances, travailler sur un document. Enfin, le navigateur garde en mémoire ce que vous consultez et s'en nourrit pour s'améliorer. Alors, tout ça n'est pas encore 100% fluide. Il faut être familier de cet usage, toujours dans la discussion. Ça pose aussi des questions de confidentialité. À ce stade, enfin, Atlas n'est disponible que sur les ordinateurs de la marque Apple, les Mac.
Ce qui est intéressant sur la page que vous avez ouverte, c'est qu'il y a les sources. On voit les sources qui sont indiquées pour les informations qui sont données. C'est un changement majeur, Xavier. Est-ce que ça veut dire que Google peut perdre son ultra-monopole ?
Oui, en tout cas, c'est l'objectif à peine dissimulé de Sam Altman, le patron d'OpenAI. Renverser la table, faire de ChatGPT une sorte de super assistant. D'autres navigateurs intègrent déjà de l'IA, mais Atlas repose sur l'IA générative la plus utilisée au monde. 800 millions d'utilisateurs revendiqués, 10% de l'humanité. C'est donc loin d'être anodin. Ce matin, l'action Alphabet, la maison mère de ouais. Google, était en baisse de 5% à l'annonce de l'arrivée d'Atlas.
Merci Xavier Demani. Le cinéma.
Comment est votre blanquette ?
Vous avez de la pâte, vous avez du sucre. Alors avec la pâte, vous faites une crêpe, puis vous mettez du sucre dessus.
On n'est quand même pas venu pour beurrer des sandwichs.
Les sorties cinéma de ce mercredi, c'est avec vous. Bonjour Alexis de Meyer.
Bonjour Jérôme.
Alexis, votre coup de cœur cette semaine est signé Afsia Erzi, La Petite Dernière.
Oui, souvenez-vous, en mai dernier, cette adaptation de l'autofiction de l'autrice Fatima Das avait emballé la croisette. Le jury du Festival de Cannes avait d'ailleurs eu la très bonne idée de décerner le prix d'interprétation à Nadia Meliti, dont c'était pourtant la première apparition à l'écran. Émouvant passage de témoin entre Afsia Erzi, actrice débutante de La Graine et Mulet devenue réalisatrice, et cette débutante bouleversante repérée, elle, lors d'un casting sauvage.
Comment t'as su que tu préférais les femmes ?
Je suis tombée amoureuse, en fait, d'une de mes copines au lycée.
J'ai une très bonne amie à moi qui est musulmane. Elle s'est rendue compte qu'elle était attirée par les femmes.
La Petite Dernière raconte avec pudeur et délicatesse, mais aussi avec beaucoup de franchise, la délicate acceptation de son homosexualité par une jeune femme d'origine algérienne. Afsia Erzi parvient à trouver le ton juste pour accompagner cette trajectoire et prouve une fois encore son talent pour la mise en scène avec ici des plans d'une impressionnante maîtrise formelle.
À l'affiche également, le nouveau long métrage d'Alexandre Astier, Kaamelott, deuxième volet, première partie. Là, ce film vous a beaucoup moins emballé.
Une comédie d'aventure qui ne fait jamais rire et rarement sourire, c'est toujours un peu problématique. J'ai vu le film dans une grande salle bien remplie et je vous promets, Jérôme, qu'on entendait les mouches voler.
Nous sommes convoqués à la nouvelle table ronde d'Arthur Pendragon.
Si on me convoque à la nouvelle table ronde, j'y vais.
En tant que vétéran, vous pouvez peut-être louper le début.
L'intrigue est peu copieuse pour un film de 2h20. Il y a une nouvelle table ronde et les chevaliers doivent se lancer dans de nouvelles quêtes. Alexandre Astier, toujours devant et derrière la caméra, semble lui aussi en quête d'inspiration, car au-delà des luxueux décors et des traditionnels bons mots dans une langue à mi-chemin entre Audiard et les Robins des Bois, ce deuxième Kaamelott sur grand écran est un coup d'épée dans l'eau.
Pas une semaine ou presque sans son biopic. Ce mercredi, c'est au tour du rocker américain Bruce Springsteen d'être immortalisé.
How's that sound?
Looks about right.
Deliver Me From Nowhere se concentre sur la conception chaotique du mythique album Nebraska avec un Springsteen qui traverse une dépression. Jeremy Allen White, dans le rôle titre, livre une grande prestation et le réalisateur Scott Cooper s'en sort avec les honneurs. Mais après le biopic sur Dylan, cette nouvelle appropriation de la contre-culture américaine par Disney possède quand même un curieux angle mort. Les engagements nombreux de l'auteur de Born in the USA sont ici aux abonnés absents.
Quoi d'autre à l'affiche cette semaine, Alexis?
L'homme qui rétrécit, film de science-fiction avec Jean Dujardin, dans le rôle, vous l'aurez compris, d'un homme qui rétrécit. La disparition de Joseph Mengele, drame historique signé Kirill Serebrennikov sur la fuite du médecin nazi du camp d'Auschwitz. Et Arco, un dessin animé haut en couleur primé lors du dernier festival du film d'animation d'Annecy.
Merci Alexis de Meyer pour ses conseils ciné. 13h28 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure, la météo de Sébastien Léas. On va parler notamment de la tempête Benjamin qui s'approche des côtes nord-ouest du pays. Puis à partir de 13h30, une autre tempête qui a coûté très très cher à des alpinistes. 1961, dans le massif du Mont Blanc, le récit poignant de la tragédie du pilier du Fresnay. C'est signé Virginie Troussier. Ce roman est republié au milieu de l'été. Un invincible hiver. Il vient de paraître en poche. On en parle ensemble. Si la montagne et l'alpinisme sont vos passions, notamment 01 45 24 7000 pour être avec nous. 13h45, notre feuilleton de l'importance d'un salon de coiffure. Nous sommes toujours à Mâcon, mais dans un salon aujourd'hui 100% végétal. Vous verrez de quoi il s'agit. 13h50, c'est la France et c'est une chanson. Éric Fautorino et Frédéric Pommier. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Jérôme.
Bonjour Jérôme.
Éric, vous nous ramenez au Louvre.
Eh oui Jérôme, pour pointer l'onde de choc que constitue le cambriolage rocambolesque de dimanche dernier, digne d'un Black et Mortimer revisité par Tintin et Nestor Burma.
Rien que ça. Et avec vous Frédéric, une chanteuse pour nous parler de Barbara.
Barbara Pravi, qui, voyez-vous, n'a pas toujours aimé Barbara quand elle l'a découverte. Son père lui a offert l'intégrale de son répertoire. Elle trouvait même sa façon de chanter insupportable, mais elle ne s'est pas arrêtée à cette première impression. Et avec elle, c'est Nantes que nous écouterons.
Merci à tous les deux et à tout à l'heure.
En chaque enfant confié en protection de l'enfance, il y a souvent des blessures invisibles. Ces blessures peuvent fragiliser leur santé mentale et les empêcher de grandir sereinement. Chez SOS Village d'Enfants, nos professionnels sont formés pour prendre soin de leur santé mentale et de leurs besoins. Une approche sensible au trauma et un soutien dans la durée peuvent transformer une enfance. Ensemble, agissons pour faire de la santé mentale des jeunes une priorité. Rendez-vous sur sosve.org.
France Inter, partenaire de l'exposition « Le mystère Cléopâtre » à l'Institut du monde arabe. Depuis sa mort tragique, il y a plus de 2000 ans, Cléopâtre ne cesse d'éblouir le monde. Un personnage fascinant dont se sont nourris littérature, peinture, sculpture, théâtre, cinéma, un mythe. 250 œuvres d'art exceptionnelles, issues de grandes collections internationales, plongent le visiteur au cœur de l'une des plus étranges énigmes de l'histoire, de l'Égypte antique à nos jours. Le mystère Cléopâtre jusqu'au 11 janvier à l'Institut du monde arabe.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec TGV Inouï. Avec 200 destinations en France et vers l'Europe, découvrez que ce n'est pas l'automne partout.
Bonjour Sébastien Léas.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Avant le temps de cet après-midi, commençons par cette tempête Benjamin qui s'annonce pour les prochaines heures.
Effectivement, la dépression Benjamin s'approche du nord-ouest et va se creuser rapidement en circulant le long de la Manche pour donner des vents violents. D'ailleurs, une vigilance orange a été émise pour des rafales entre 100 et 120 km par heure, voire localement plus, sur la Manche et entre la Vendée et les Pyrénées-Atlantiques. Attention aussi au risque de vagues submersion sur le littoral de la Seine-Maritime et les côtes aquitaines, puisqu'on attend des vagues de 4 à 6 mètres pour demain. Ces vents puissants souffleront dès cette nuit près de la Manche, en fin de nuit sur l'Atlantique, et pourront parfois rentrer dans les terres, notamment vers le Poitou-Charentes et sur le relief du Massif central. Demain, deux très fortes rafales de 80 à 100 km par heure sont attendues quasiment partout, avec des pointes jusqu'à 110-120 km par heure à craindre sur le relief, mais aussi au nord de la Seine et autour de la Méditerranée. Une extension de la carte de vigilance est donc largement possible, prudence.
Donc ça, c'est la nuit prochaine et surtout demain. Avant cela, il y aura beaucoup de pluie cet après-midi.
Oui, les conditions restent globalement agitées avec des perturbations qui défilent. Cet après-midi sera d'ailleurs gris et pluvieux. De la Lorraine et l'Alsace à Auvergne-Rhône-Alpes et du nord de l'Occitanie aux Landes, au Limousin et au Poitou-Charentes. Les pluies seront parfois durables, voire orageuses dans le sud-ouest ou près du Lyonnais. Une nouvelle perturbation va aussi arriver sur le nord-ouest, apportant de la pluie sur la Bretagne et les Pays de la Loire. Ce sont d'ailleurs les prémices de la tempête Benjamin. Quelques averses pourront aussi traverser la Corse avec parfois quelques coups de tonnerre. Et puis le temps sera quand même plus calme entre la Normandie, le Loiret, l'Île-de-France et les frontières belges. Les nuages vont s'accumuler à l'approche de la nouvelle perturbation. Les éclaircies résisteront mieux le long des Pyrénées et sur le pourtour méditerranéen.
Merci Sébastien Léas. Vous êtes encore avec nous pour quelques jours, mais ensuite vous poursuivrez vos aventures sous d'autres cieux. Je voulais vous remercier. C'était un plaisir ici dans 13-14 et pour tous nos auditeurs d'avoir ces informations très précieuses avec vous chaque mercredi. Merci infiniment Sébastien. 13h33 sur Inter.
France Inter. Le 13-14. Jérôme Cadet.
Bonjour Virginie Troussier.
Bonjour Jérôme.
Merci d'être là dans ce 13-14. Vous êtes journaliste et écrivaine, amoureuse des océans et des montagnes. Ces deux univers vous passionnent et vous inspirent. Les auditeurs de France Inter qui ne vous connaissaient peut-être pas apprennent à vous connaître vendredi après vendredi puisque vous êtes avec nous chaque vendredi 13h50 dans C'est la France pour parler des mers et des montagnes, et vous aviez publié précisément en 2021 le récit de ce qu'on a appelé la tragédie du pilier du Fresnay. Nous sommes dans le massif du Mont Blanc, 4 alpinistes morts au cœur de l'été 1961, 3 Français et un Italien sur les 7 qui avaient tenté cette ascension mythique. Il se trouve que ce récit vient de ressortir en poche aux éditions Paulsen. Voilà pourquoi nous vous avons invité aujourd'hui. 01 45 24 7000 pour être avec nous, pour vos questions sur la montagne, sur l'alpinisme, ses aventures et ses drames. Je voudrais, avant d'échanger ensemble, Virginie Troussier, que l'on se replonge dans ce drame qui, à l'époque, avait tenu en haleine la France et l'Italie. Dimanche 16 juillet 1961, les alpinistes sont partis depuis une semaine. Ils ont passé 3 nuits bloqués par la tempête à 4500 mètres d'altitude, par moins 20 degrés, contraints de faire demi-tour. La redescente va être fatale à 4 d'entre eux. C'est le lieutenant-colonel Le Gall du peloton de haute montagne de Chamonix qui annonce à la France et à l'Italie la fin des recherches et le terrible bilan.
Ici le commandant de l'école de haute montagne de Chamonix. Colletif et Galliani ont été récupérés, évacués sur Courmayeur et sont vivants, sont bien. Odjourny est mort. Le troisième est mort. La cordée française, Mazot, récupérée à Courmayeur, bien aussi. Guillaume, Vieille, sont morts tous les deux. Et n'ont pas pu être récupérés. Quatrième, Coleman. En arrivant au refuge, il a été descendu sur Courmayeur. Mais les caravanes de secours sont rentrées au refuge. Elles redescendent sur Courmayeur. De toute façon, il n'y a plus personne.
Il n'y a plus personne, voilà cet archive de 1961. Virginie Troussier, qu'est-ce qui vous a amené vers cette histoire ?
Ce n'était pas une évidence pour moi, parce que c'est un récit qui a été beaucoup raconté, notamment dans la presse de l'époque. Paris Match avait fait sa une avec cette tragédie. Ce récit a été raconté aussi par les deux protagonistes de cette aventure, que sont Walter Bonatti et Pierre Mazot. Ça fait l'objet de courts chapitres dans leurs mémoires respectives.
Ce sont eux qui menaient les deux cordées, la cordée française et la cordée italienne.
Tout à fait. Et on va dire que j'identifie deux motifs qui m'ont mené à l'écriture. Peut-être pour commencer, la beauté des lieux, puisque je suis allée au pied du pilier du Fresnay et j'ai été fascinée par cette montagne. Vous savez, chaque montagne a comme une personnalité propre, sa découpe dans l'espace, sa géographie, ses lignes, ses fissures, ses veines de quartz, son altitude. Et là, j'étais un peu aimantée par cette flèche de granit qui me surplombait. Et puis, il y a un autre motif, c'est que j'ai rencontré aussi Pierre Mazot. Je suis allée le voir à plusieurs reprises. J'espérais recueillir une parole intime, mais il se trouve qu'il m'a livré que très peu de choses. Je sentais que c'était très présent, mais qu'il ne parvenait pas à me raconter ce qu'il s'était passé et à me raconter comment il vivait aujourd'hui après avoir vécu cette épreuve et après avoir traversé ces années sans ses amis. Et finalement, c'est cette incommunicabilité qui a été la matière littéraire de mon texte. Parce que ce qui m'intéresse dans l'écriture et dans la littérature, c'est finalement ce qui ne se dit pas, ce qui ne se voit pas dans nos rapports sociaux. C'est sonder l'intime. C'est pour ça que je lis un livre, pour lire des choses que je ne vois nulle part ailleurs.
Mais cette histoire, vous l'avez dit, elle a été racontée. Il y a des éléments factuels, évidemment, dans votre livre, qui sont finalement peut-être la corde que l'on suit. Mais il y a aussi forcément des libertés dans le roman, parce que tout n'a pas été dit. Il y a des dialogues et des impressions que vous attribuez aux uns et aux autres, que peut-être vous n'avez pas pu confirmer. Comment est-ce que vous avez travaillé entre réalité, ressenti, récit-roman ?
Exactement. Alors déjà, je pense que toute œuvre d'art se nourrit du réel et toute œuvre du réel se nourrit de l'art, de la fiction. Il y a très peu de dialogue dans le texte parce que je ne voulais pas laisser les protagonistes dire des choses qu'ils n'avaient pas dites. En revanche, une chose est sûre, c'est qu'il ne fallait laisser place à aucune approximation. Donc j'ai essayé déjà, dans un premier temps, de faire un travail documentaire, donc reconstituer les faits, essayer de connaître à quelle heure ils étaient sortis du refuge, à quelle heure ils étaient au pied du pilier du Fresnay, à quelle heure la météo a commencé à tourner, quand est-ce qu'ils étaient redescendus. Donc j'avais une sorte d'architecture comme ça du récit. Ensuite, effectivement, ce qui m'intéressait, c'est ce qu'ils vivaient, ce qui les traversait, leur rapport aussi à la montagne, à l'amitié. Et effectivement, là, je pense que je me suis autorisée quelques libertés, mais aussi parce que je pense que ce qu'on vit en montagne est assez universel.
Alors, ce qui est incroyable dans cette histoire, c'est que deux groupes d'amis ont la même idée en même temps, c'est-à-dire arriver à vaincre ce pilier du Fresnay et cette ascension qui n'a jamais été réalisée. Ils vont se retrouver en montagne, au refuge, et ils décident de monter ensemble. Finalement, ce sont deux histoires qui ne font qu'une.
Oui, c'est
à une époque où il y a beaucoup de rivalité. Il y en a peut-être toujours encore aujourd'hui, mais à l'époque, il y en a beaucoup. Et entre la France et l'Italie,
oui,
notamment.
Oui, tout à fait. Il faut rappeler que c'était une première, que le pilier du Fresnay n'avait jamais été gravi. Et à une époque où finalement, les informations circulaient peu. Pas de réseaux sociaux. Ils ne s'appelaient pas pour se dire « Tiens, je vais tenter cette première ». Mais surtout, les intentions étaient tues parce que chaque cordée, la cordée française et la cordée italienne, voulaient toutes deux faire une première. Voilà. Et ce qui s'est passé, c'est que la cordée française est partie de Chamonix. Elle a pris l'ébène pour monter à l'Aiguille du Midi, a rejoint la Combe Maudite pour rallier le bivouac de la Fourche, et la cordée italienne est partie de Courmayeur et donc de l'autre côté, du côté italien, et ils se sont retrouvés effectivement au bivouac de la Fourche pour la petite histoire qui est placée sur la frontière franco-italienne. Donc ils se retrouvent dans ce bivouac qui est vraiment une cabane de tôle à flanc de falaise. Les Français étaient là avant, et là ils voient débarquer Bonatti, l'immense Bonatti avec toute son épaisseur de récit. Et là, c'est génial ce qu'il se passe. C'est une vraie rencontre.
Bonatti, qui est considéré peut-être comme le meilleur alpiniste au monde à cette époque-là, au début des années 60. C'est le leader italien, si je puis dire. Côté français, c'est Pierre Mazaud, vous en avez dit un mot, qui est un très grand juriste qu'on connaît aujourd'hui pour avoir été le président du Conseil constitutionnel, ministre, homme politique, mais qui a aussi été parmi les premiers Français à accéder au sommet de l'Everest.
Oui, tout à fait.
Donc on a deux personnalités extrêmement fortes.
Deux personnalités très très fortes. Bonatti, c'est quelqu'un qui gravissait les montagnes avec une conscience, avec beaucoup de philosophie. Je me souviens quand il a, pour sa dernière ascension, c'était la face nord du Cervin en solitaire et en hiver, en plein hiver. Donc il bivouaquait à flanc de montagne et à son retour, il disait « Pour moi, c'était important de bivouaquer vraiment dehors, d'être sous les étoiles parce que les étoiles, c'est important pour la philosophie. » Donc il était constamment en train de réfléchir à ce qu'il faisait, à conscientiser ce qu'il faisait. Pour lui, l'alpiniste avait un rapport très fort à la connaissance de soi, à la connaissance des autres, connaissance intime. Pierre Mazaud, c'est une autre personnalité effectivement très forte, quelqu'un de très droit, très loyal et pour qui l'amitié était une valeur cardinale dans son existence.
Ils débutent cette ascension, ils arrivent à gravir une partie du pilier du Fresnay. Quand ils sont pris dans une tempête qui est totalement inattendue en plein été, normalement elle ne doit durer que quelques jours ou même une journée, quelques heures. Finalement elle dure plusieurs jours et ils n'arrivent pas à renoncer. Il n'arrive pas à redescendre. C'est peut-être la clé de cette histoire, Virginie Troussier. Ils pensent qu'ils vont pouvoir s'en sortir par le haut, en arrivant au sommet.
Oui, parce qu'ils sont bloqués à 120 mètres du sommet. Donc, ils ont presque tout réussi. Et comme vous le dites, l'été, les orages durent peu. Ils ont l'habitude des orages en plein été. Ils se disent, OK, ça va durer une nuit, deux nuits. Finalement, ça ne passe pas. Donc, ils sont obligés de faire demi-tour, mais il se trouve que faire demi-tour est plus périlleux. C'est pour ça aussi qu'ils ont attendu, parce que la voie la plus simple, c'était d'aller au bout de l'ascension.
Il faut redescendre, il y a le vide, il y a le froid, ils sont montés, la roche était à nu, il y a désormais la neige et la glace, c'est un enfer. C'est l'enfer sur Terre, cette redescente.
C'est l'enfer, ils sont dans la survie, les cordes sont gelées, ils sont dans le brouillard, ils ne voient rien. Alors heureusement, justement, Bonatti, le grand Bonatti est là. Bonatti, le versant sud du Mont Blanc, c'est son jardin, c'est ce qu'il raconte. Finalement, toutes les lignes sont inscrites dans sa rétine. Donc il y va, il redescend un peu comme ça, avec intuition. L'intuition est toujours très forte en montagne. Et c'est grâce à lui quand même qu'il arrive à redescendre ses compagnons. Mais ils n'ont plus de vivres, ils sont froids, il fait moins 20 degrés, enfin, voilà, c'est extrêmement difficile.
Quatre de ces alpinistes vont mourir, trois seulement seront secourus, dont Pierre Mazeaud. Vous avez exhumé et vous avez enrichi aussi cette histoire en 2021. Virginie Troussier, vous aviez aussi la crainte de savoir comment ce récit allait être accueilli par le milieu de la montagne et notamment par cette grande figure qu'est Pierre Mazeaud. Voilà comment vos mots ont été accueillis. 2021, Pierre Mazeaud.
La lecture de cet ouvrage m'a replongé dans un des souvenirs les plus douloureux de mon existence, je dirais même le plus douloureux, hein, sans aucun doute, la perte de quatre camarades. Et je dois dire qu'elle traduit ce que j'ai ressenti dans ces moments très pénibles, et plus particulièrement à la mort de Johnny quand il est mort dans mes bras, et qu'on passait notre dernière nuit, la septième, et que j'étais complètement dans le coma avant que Ulysse Bruno et les Italiens de secours n'arrivent, car ils avaient été sollicités par Bonatti, qui était arrivé, évidemment, au refuge Gamba. Voilà, pour moi, tout ça a été très émouvant, et j'ai eu, je crois, des réactions qui ne pouvaient être que celles que j'ai eues. De la tristesse, voilà ce que je peux dire. Et je la remercie.
Virginie Troussier, une réaction pour Pierre Mazeaud qui peut-être nous écoute, et si c'est le cas, on le salue.
Je suis très émue de réécouter ce passage. Je me dis finalement qu'il y a des choses qui ne passent pas et que même avec le temps, l'épaisseur du souvenir s'accroît. Je me dis aussi que finalement, nos vies sont tissées des vies de nos disparus, que l'on vit avec nos disparus, que nous avons un rapport très fort avec eux. Et je crois qu'avec ce texte nous a reliés Pierre Mazeaud et moi-même, mais aussi a relié beaucoup d'alpinistes, beaucoup de lecteurs. Il s'est passé quelque chose. Voilà, je suis touchée parce que l'écriture sert à ça, à rendre les choses éternelles, à ce que ces disparitions qui nous hantent soient un peu moins irrémédiables.
Cette histoire d'alpinisme français, elle continue de s'écrire. Est-ce que vous faites un parallèle avec l'exploit qu'ont réalisé la semaine dernière Benjamin Védrine et Nicolas Jean? Alors pas dans les Alpes, mais dans l'Himalaya. Moi, j'étais frappé par le parallèle des formules. Vous dites dans le livre, le pilier du Fresnay, c'était le dernier problème des Alpes, et le sommet, le Janu-Est que les deux Français ont vaincu, c'était le dernier problème de l'Himalaya.
Et oui, les alpinistes s'attaquent à des problèmes. C'est-à-dire que quand une montagne n'a pas été gravie, quand une voie n'a pas été ouverte, ça reste une énigme. La pente est une partition. Donc il faut trouver où passer et trouver un itinéraire. C'est ça le problème des Alpes en Himalaya. Et bien sûr, je salue la performance extraordinaire de Benjamin Védrine. Il nous étonne, il nous fascine depuis des années et j'ai l'impression que ça va continuer. Voilà, bravo Benjamin.
Virginie Troussier, Au milieu de l'été, un invincible hiver aux éditions Paulsen. Lisez-le, je vous dis à vendredi, Virginie.
À vendredi, Jérôme, et merci
pour
beaucoup.
Le C'est la France, 13h46 sur Inter. Une semaine dans leur vie, notre feuilleton dans un salon de coiffure. Cette semaine, on va changer d'adresse. On va rester à Mâcon, mais changer d'adresse avec Mariam El Kurdi pour cette fois aller dans un salon qui est spécialisé dans les colorations à base de poudre naturelle de plantes. C'est un salon 100% végétal.
Vous avez plein de plantes, là. Il peut y avoir de la camomille, il y a des indigos, il y a du cassia, il y a du thé, il y a du poivre, il y a plein d'épices sympas, il y a du cumin, il y a du curcuri.
Curcuma,
voilà. Il y a certaines plantes que je fais bouillir, que je dépose dans de l'eau froide, que je fais donc chauffer, pour ensuite obtenir un lait. Et avec ce lait-là, ça va m'orienter ou me maîtriser une couleur qui peut être un peu tendancieuse. Donc grâce à ces décoctions, on appelle ça des décoctions, j'arrive à faire quelque chose de super chouette.
Tu me dis que tu te trouves pas au tour.
Je m'appelle Isabelle, on va dire que je suis la chef d'entreprise de ce salon et j'ai toute ma petite équipe que j'adore là et avec qui on fait des trucs super.
Et vous avez un pinceau à la main ?
Ah bah plusieurs même, des pinceaux, j'ai des marises, j'en ai toutes les couleurs pour pouvoir faire le chef-d'œuvre.
Je m'appelle Anne, donc moi ça fait 2 ans que je viens dans ce salon. J'ai 42 ans et ça doit faire 7 ans que je fais des colorations parce que j'ai eu mes premiers cheveux blancs à 18 ans donc il fallait quand même... Au bout d'un moment, je me suis dit que voilà, il fallait agir. Et donc j'ai commencé par des colorations classiques et c'est en arrivant ici à Mâcon que j'ai trouvé ce salon un peu par hasard et que je suis donc passée à la coloration végétale. C'est un petit peu en alignement avec des petites actions que je peux mener par ailleurs, je sais pas, manger bio, s'habiller en seconde main, des choses comme ça. Je me suis dit que c'était plus logique aussi de passer à une coloration plus respectueuse de l'environnement. Et voilà. D'avoir des couleurs moins polluantes, de ne pas se mettre des choses chimiques sur les cheveux. Aussi pour les coiffeurs, en fait, parce que ce n'est pas forcément bon pour eux de toute leur vie poser des colorations chimiques sur les cheveux des clientes. Donc, voilà.
Benabas, B-E-N-A-2-B-A-2-S.
Le passage au végétal, c'est quand je suis tombée malade suite à un cancer de la peau. Je ne supportais plus de toute façon, même certaines fois, l'eau trop calcaire me piquait. Enfin, j'étais très très sensible et fragile. Ça s'appelle un cancer des tissus mous, qui est très rare, mais qui touche la peau, l'épiderme et l'intérieur des tissus mous, donc les muscles et tout.
C'est dû à quoi ?
Ça, je ne sais pas. Mais je sais que j'aurais continué dans le chimique, ça n'aurait pas arrangé la situation. Les allergies ou les picotements ou les choses comme ça. Donc là, avec mon végétal, je peux me permettre de faire plein de choses. Puis maintenant, je suis hyper satisfaite. Voilà.
Je regarde par la fenêtre, je vois qu'il y a un salon de coiffure juste en face. On est en centre-ville de Mâcon, il y a quand même beaucoup de salons de coiffure. Est-ce que c'est un secteur concurrentiel ?
Moi, le fait que je me sois démarquée, ce n'est pas du tout concurrentiel, en fait, parce que je fais du végétal. Suite à des ennuis de santé, donc j'étais obligée de le faire. J'étais au pied du mur, donc c'était soit j'arrêtais la coiffure, soit je changeais de produit. Donc en changeant de produit, ça a été... très bénéfique pour moi et ça a été très bénéfique pour mon entreprise aussi. Elle est très saine. Je sais que Mâcon a beaucoup souffert là depuis quelques années, beaucoup de commerces, pas forcément des salons de coiffure, mais là, récemment, il y a eu quand même quelques salons de coiffure qui ont fermé là cette année. J'ai juste une niche en fait, on peut appeler ça une niche qui plaît à une certaine clientèle.
En 15 ans, vous avez vu le nombre de clients augmenter ?
Ah oui, c'est permanent, ça augmente tout le temps. Je suis en accord avec eux comme eux sont en accord avec moi.
La tête dans le bac, notre feuilleton au salon, la suite demain.
France Inter, le 13-14.
C'est la France, le mercredi 13h50, le regard d'Éric Fotorino du 1 Hebdo. Aujourd'hui, Éric, vous nous parlez du casse du Louvre, 88 millions d'euros de préjudice pour la France, mais qui, dans un premier temps dimanche matin, vous a fait sourire.
Oui, cher Jérôme, je dois l'avouer, il m'a semblé que l'actualité, souvent lourde et déprimante par les temps qui courent, avait décidé de nous distraire à sa manière, en découvrant, comme nous tous, le mode opératoire des malfaiteurs équipés de disqueuses, juchés sur une nacelle de déménageurs au sommet d'une échelle innocemment appuyée contre le rebord d'une fenêtre du célèbre musée. J'étais prêt à croire à un gros poisson d'avril que le réchauffement climatique aurait attiré sur les berges du mois d'octobre. Si vous ajoutez la nature du butin, des parures de diamants napoléoniens, dont on a du mal à imaginer qu'elles existent, si vous ajoutez des voleurs s'enfuyant sans tambour ni trompette sur de puissants scooters, abandonnant au passage un gant, un casque et rien moins, allez savoir pourquoi, que la couronne de l'impératrice Eugénie, alors oui, c'était difficile de réprimer un sourire et même un petit fou rire. Dans ce dimanche gris-souris, je me suis retrouvé plongé dans un Black & Mortimer, le fameux album L'Affaire du Collier, qui se passe aussi à Paris, revisité par un excellent Nestor Burma, titré Le soleil né derrière le Louvre, un salut au nouveau mystère de Paris de Léo Mallet, avec un zeste du Da Vinci Code immortalisé par Tom Hanks, ou encore dans Les bijoux de la Castafiore, Ciel mes bijoux, de l'inusable Hergé. Pour ma génération ressurgit aussi Belphégor ou le fantôme du Louvre, apparu sur le petit écran en 1965 sous le visage troublant de Juliette Gréco. Voilà comment ce qui restera comme un rocambolesque cambriolage a ramené à la surface un parfum d'aventure et de mystère à la sauce BD ou série télévisée.
Bon, ça, Eric, c'est pour le romanesque, mais un morceau de l'histoire de France se retrouve tout de même dans la nature. Les diamants pourraient être dessertis de leur support. et revendu.
C'est en effet un risque réel, Jérôme. Dans une tragicomédie, il n'y a pas que le drôle. Derrière se cache la catastrophe, tout à la fois symbolique. Imaginez la monarchie britannique privée des joyaux de la couronne. Mmh. Et économique, le Louvre, où siégeait jadis le ministère de l'économie et les services du Trésor, avait littéralement cassé sa tirelire pour acquérir certains des bijoux exposés dans la galerie d'Apollon. Inévitablement, apparaissent au grand jour les manquements graves à la sécurité du Louvre et des œuvres qui sont exposées. Tout cela a été relevé dans le passé. Quant aux valeureux mousquetaires qui ont désormais la tâche de retrouver les cambrioleurs, je leur conseille comme viatique les lectures suggérées au début de cette chronique.
Dans le 1 Hebdo, cette semaine, à la une du 1, cher Eric.
Nous posons cette question très actuelle. Sommes-nous en guerre, nous la France, avec la Russie? Avec des informations et des analyses sur la présence des amis de Poutine dans le paysage politique et médiatique français, en particulier dans les médias du groupe Bolloré.
Et c'est à lire dans le 1. Merci Eric Fotorino de C'est la France. Ah, c'est une chanson, la suite de notre semaine consacrée à Barbara, avec vous Frédéric Pommier. Aujourd'hui, avec la bien nommée Barbara Pravi, qui est actuellement en tournée, et elle a choisi d'évoquer ce célébrissime titre de 1964, Nantes, car Barbara Pravi adore aujourd'hui Barbara, ça n'a pas toujours été le cas.
J'ai découvert Barbara lorsque j'avais 13 ans, parce que mon père m'a offert l'intégrale de Barbara, puisque je m'appelle Barbara, il s'est dit, voilà, une Barbara, découvre une autre Barbara. Et j'ai détesté, et vraiment j'ai été très 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 triste qu'on m'offre cette intégrale, parce que moi, à l'époque, on commençait à avoir des téléphones portables, j'avais envie qu'ils m'offrent un téléphone portable. Donc j'ai fait une colère pas possible, et puis je trouvais qu'elle chantait, et ça me rendait dingue, je comprenais pas la musicalité de cette femme, j'étais très jeune. Et puis... j'ai grandi et je suis tombée un jour dans une librairie sur un intégral de ses textes. Et ça, c'était incroyable parce qu'en fait, j'ai été possédée par ses textes. C'était mon livre de chevet, je lisais. En plus, à la fin, il y avait des petits extraits de ses carnets. Ça se lit comme de la poésie. C'est d'une simplicité et d'une profondeur rarement égalée, je trouve. C'est tellement bien écrit, tellement structuré qu'on entend des mélodies. Quand bien même on ne connaîtrait pas les notes qui sont associées aux mots, quoi. C'est quand même un truc de dingue. Et donc j'ai découvert Barbara par les mots avant de la rencontrer par la musique.
Il pleut sur Nantes, donne-moi la main. Le ciel de Nantes. Un matin comme celui-là, il y a juste un an déjà, la ville avait ce teint blafard lorsque je sortis de la gare. Nantes m'était alors inconnue, je n'y étais jamais venue. Il avait fallu ce message pour que je fasse le voyage. Madame, soyez au rendez-vous, 25 rue de la Grange au Loup. Faites vite, il y a peu d'espoir. Il a demandé à vous voir.
On ne sait pas tout de suite de quoi ça parle. Au départ, c'est juste une espèce de description un petit peu grise d'une femme qui arrive dans une ville. Elle cherche quelque chose et on ne sait pas quoi. Et à la fin, on comprend que son père allait mourir et qu'elle arrive trop tard. Je trouve que c'est une chanson bouleversante parce que quand on connaît un peu l'histoire de cette femme qui s'est faite violer par son père était parti depuis déjà des années quand elle a écrit Nantes et quand il est décédé. Et elle n'a jamais eu l'occasion de pardonner son père. Et c'est ce qu'elle fait dans cette chanson. Et c'est ça qui est exceptionnel. C'est qu'à la fin de la chanson... En fait, ce qu'on comprend, c'est qu'elle pardonne à son père pour ce qu'il a fait, puisque de toute façon, il est mort et qu'elle n'a pas envie de vivre avec ses regrets.
Il voulait, avant de mourir, se réchauffer à mon sourire. Mais il mourut à la nuit même, sans un adieu, sans un je t'aime.
Est-ce que c'est une chanson qui vous a appris des choses sur vous-même, éventuellement ?
Elle m'a donné le goût de raconter des histoires en chanson, ça c'est sûr. C'est-à-dire, tout est tellement précis, on la voit sortir de la gare, puis Nantes m'était alors inconnue, elle est là dans cette ville qu'elle connaît pas, je n'y étais jamais venue. Et là, elle va, elle trouve l'appartement de son père, et en fait, elle arrive, il est déjà décédé. C'est complètement dingue, on voit tout. on sent les odeurs, on sent la pluie, on sent le gris, enfin, c'est quand même complètement fou. Et moi, ce que j'aimerais un jour réussir à faire, je crois que j'ai pas réussi encore, j'en suis sûre même, c'est écrire une histoire comme ça, avec cette précision-là, comme un film, on n'a même pas besoin d'avoir les images. Pour moi, Nantes, elle réunit le cinéma et la musique. On peut mettre un fond noir et écouter, et le film, il se fait naturellement dans nos têtes, à chacun. C'est incroyable.
Le ciel de Nantes rend
Nantes, Barbara. C'était donc le choix de Barbara Pravi qui est actuellement en tournée, en concert ce soir à Caluire et Cuire, puis le 8 novembre à Saint-Lô. À suivre le fil de l'histoire. Stéphanie Duncan.